Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
D'après vous, quelles sont les constructions les plus impressionnantes du vivant ? Les nids des oiseaux ? Les toiles d'araignées ? Les termitières ? Les fourmilières ? Peut-être que d'autres proposeront les bulldozers et les terrassiers qui creusent des HLM sous terre, comme les blaireaux, nos petits pandas européens ?
Mécanique du vivant. Sixième saison, les constructions ingénieuses. Un podcast produit par Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou.
Moi, la toute première espèce qui m'est venue en tête, c'est le corail. C'est simple, c'est la seule construction du vivant visible depuis l'espace. Contrairement à Thomas Pesquet, je n'ai pas eu la chance de voir la Grande Barrière d'Australie et d'autres grands récifs depuis l'espace. Mais je me suis longtemps promené dans certaines de ces forêts sous-marines. Pendant 4 ans, j'ai travaillé comme prof de plongée en mer Rouge autour du Sinaï, en Égypte. Et là-bas, à Dahab, l'un des sites s'appelle le labyrinthe. C'est un dédale de corail. Et dans cet entre-là, il y a à peu près toutes les formes possibles et imaginables de coraux. Ici, un corail cerveau, là, un corail salade, ceux en forme de branches ou de bois de serre, ceux en forme de champignons, des feuillus, des plats, des patatoïdes. Ils sont bleus, blancs, rouges, mais aussi verts, jaunes, violets. Ils sont durs ou mous. Dans et autour de cette féerie, il y a des poissons partout. Car le corail est tout pour ses habitants. Une maison, une source de nourriture et une pouponnière. Dans cette nouvelle saison de Mécanique du vivant, je vais vous raconter les constructions les plus impressionnantes, les plus folles que bâtissent les animaux. Nous verrons la différence entre le corail et les nids d'oiseaux, les toiles d'araignées ou les termitières. La différence entre ces espèces qui sécrètent une partie de leur propre corps et celles qui utilisent des matériaux extérieurs pour se bâtir un abri, un nid, un piège ou encore une œuvre d'art pour séduire une belle. Quels sont les mécanismes qui permettent à de tout petits animaux comme les termites de bâtir des cathédrales climatisées, sans plan, ni vision d'ensemble et encore moins d'architecte en chef? Comment certaines de ces espèces ingénieurs, comme le castor, créent des oasis de vie et de diversité simplement en existant?
Premier épisode. Se prolonger soi-même.
Pourquoi construire? Dans le monde vivant, il y a 4 grandes raisons. Se protéger, protéger ses petits, c'est l'exemple des nids des oiseaux. Piéger des proies, là l'exemple type, c'est les toiles d'araignée, bien sûr. Stocker sa nourriture, et là il faut penser aux alvéoles des ruches d'abeilles. Et les animaux construisent aussi pour séduire une belle. Et nous verrons dans cet épisode l'exemple du berceau, ou plutôt de la tonnelle des oiseaux jardiniers en Australie. En construisant, les espèces bâtisseuses prolongent leur propre corps, car prolonger son corps, c'est augmenter sa surface de contact et d'échange avec le monde qui nous entoure. C'est vivre plus haut, plus loin, plus fort, comme dirait l'autre. En biologie, ça s'appelle le phénotype étendu. Pour nous expliquer ce qui se cache derrière ce mot-clé, j'ai invité Bruno Corbara, qui est enseignant-chercheur en éthologie et en écologie à l'Université de Clermont-Ferrand. Il a voyagé dans le monde entier pour, entre autres, étudier les insectes sociaux, comme les termites et les fourmis, celles qui bâtissent parfois d'étonnantes forteresses.
Pour comprendre ce qu'est le phénotype étendu, il faut d'abord comprendre ce qu'est le phénotype. Le phénotype, c'est un terme qui est utilisé en opposition à génotype. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes que possède un être vivant, un animal. Le phénotype, c'est l'expression de ces gènes. Prenons un exemple concret, le guépard. Le guépard, bien connu de tous, c'est un animal qui court très vite, qui a des capacités sensorielles, une très bonne vision, une très bonne ouïe, une très bonne audition. Il court très vite, il a des griffes émoussées, il a des dents acérées. Le guépard, en quelque sorte, c'est un animal parfaitement adapté à la capture de proies et à les rattraper à la course. Prenons un autre exemple, un animal totalement différent, une araignée sauteuse, la saltique. Ces araignées-là sont aussi des animaux qui capturent des proies en leur courant derrière. La saltique, elle saute très haut, elle court très vite, et elle a des gros yeux globuleux. Autant de caractères du phénotype qui lui permettent donc de capturer ses proies. Un autre exemple d'araignée, c'est par exemple celui de l'argiope, en quelque sorte la tigresse du monde des araignées, une araignée jaune rayée de noir, une magnifique araignée, qui construit des toiles classiques bien connues du public, des toiles en forme de roue, les toiles qu'on dit orbitelles. Eh bien, cette araignée-là, elle court pas derrière ses proies, ce sont les proies qui viennent à elle. Une mouche, par exemple, va se prendre dans la toile, en quelque sorte, l'araignée n'a pas trop à se déplacer, et cette toile va lui servir à augmenter son rayon d'action. La soie produite par l'araignée, ça fait partie de son phénotype. Une fois qu'elle a produit cette soie, qu'elle a fabriqué sa toile avec, eh bien, cette toile est déconnectée, détachée du corps de l'animal. Et c'est ça le phénotype étendu. C'est-à-dire que l'araignée saltique qui court derrière sa proie, des gros yeux qui lui permettent de voir, ça c'est du phénotype. L'araignée qui construit une toile, eh bien, cette toile est détachée d'elle, c'est du phénotype étendu. Et dans les deux cas, que ce soit les gros yeux, que ce soit la capacité de sauter ou de courir vite, ou la capacité de construire une toile, eh bien, ça augmente les chances de succès de ces animaux, de capturer des proies, et ça augmente leurs chances d'avoir une descendance.
Bon, maintenant, vous comprenez mieux, comme moi, ce qu'est ce fameux phénotype étendu, ce prolongement de soi-même, cette extension du domaine de la lutte, en quelque sorte. Cette expression a été inventée par le biologiste évolutionniste états-unien Richard Dawkins. C'est même le titre de son livre révolutionnaire, The Extended Phenotype, qu'il a publié en 1982. Mais Richard Dawkins est aussi et surtout l'auteur d'une autre expression bien connue, d'un autre concept complémentaire du phénotype étendu. Et c'est celui du gène égoïste, qui a révolutionné la biologie de l'évolution. L'idée est toute simple. Selon Richard Dawkins, nos gènes servent leurs propres intérêts. C'est-à-dire de continuer à exister, à se perpétuer. Les intérêts des gènes dépassent ceux de l'individu. Et même dans certains cas, ceux de l'espèce. Quand même. Ça vous fait quoi de savoir que vous n'êtes qu'un véhicule, un taxi transitoire pour vos propres gènes? Ce concept du gène égoïste, publié en 1976, a révolutionné la biologie et a suscité bien des controverses jusqu'à aujourd'hui. Richard Dawkins considère que le phénotype étendu, cette extension de soi-même, découle du concept de gène égoïste. L'idée principale du phénotype étendu, de la façon dont nos corps sont équipés, n'est pas limitée à de simples processus biologiques comme fabriquer des cellules, grandir ou rester en bonne santé. Dans leur arsenal de possibilités, les gènes contiennent aussi l'expression de processus, de comportements, qui vont permettre de modifier l'environnement, de construire quelque chose à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Pour illustrer ça, voyons justement un des plus extraordinaires comportements de construction du monde animal, celui des oiseaux jardiniers, une trentaine d'espèces qui vivent surtout en Nouvelle-Guinée et en Australie. En français, on les appelle aussi oiseaux à berceau, mais ce terme prête à confusion parce que leur construction faite de brindilles ne sert pas du tout à bercer quoi que ce soit. En fait, elles servent à attirer une dame. Le terme anglais d'ailleurs est plus correct et plus parlant, « bowerbird ». L'oiseau à tonnelle. La tonnelle, vous savez, ce sont ces petites allées de jardin couvertes de fleurs où se promènent, entre autres, les amoureux. Et donc, que font ces oiseaux jardiniers? Ces constructeurs de tonnelles ont pour voisins les sublimes paradisiers ou oiseaux de paradis. Et eux, pour séduire les dames, misent tout sur leurs plumes colorées et leurs danses parmi les plus hallucinantes du monde animal. Les jardiniers, quant à eux, ont un plumage beaucoup plus terne, moins exubérant. Ils ressemblent à nos merles, en gros. Et les jardiniers misent tout sur leur talent de constructeur, sur des tonnelles impeccables. Ils se donnent toute cette peine pour convaincre les femelles, qui sont d'ailleurs très difficiles. Et ça, c'est un grand classique des mécaniques du vivant. L'amélioration des uns provoque celle des autres. Et certaines espèces d'oiseaux jardiniers, comme le jardinier satiné, poussent le raffinement très très loin.
Pour attirer la partenaire femelle. Il dispose des objets décoratifs dans la tonnelle, du plus petit au plus grand. Et de cette façon, ils vont créer une perspective qui est une perspective forcée, complètement artificielle, qui va retenir l'attention de la femelle plus longtemps. Et les mâles dont les objets sont disposés de cette façon-là, qui créent la plus forte illusion d'optique, seront susceptibles d'avoir un plus grand succès reproducteur et plus de chances d'accouplement.
Cet oiseau satin en Australie est ainsi un obsédé de la couleur bleue. Ceux qui ne vivent pas loin des humains ont recours à des bouchons de bouteilles, des capuchons de stylos bleus, et certains badigeonnent même leur structure avec des mixtures végétales. Ils peignent. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des enfants qui jouent. C'est bien l'oiseau jardin de MacGregor dans ses œuvres. Car ces esthètes sont aussi de merveilleux imitateurs. En plus des voix humaines ou des sons d'autres animaux, ils sont capables d'imiter le bruit d'un ruisseau, d'une ambulance, voire d'une tronçonneuse. Bref, ces oiseaux-là sont ceinture et bretelles. Ils cumulent des effets pour encore mieux séduire. Ce type de stratégie, ce choix de comportement, conditionne la vie des mâles et des femelles. Chez certaines espèces, les mâles passent 8 mois de l'année à draguer, tandis que les femelles construisent le nid et élèvent les petits toutes seules. Mais ces infatigables dragueurs ne sont pour autant pas lourdingues. Si madame hésite, si madame dit non, ils n'insistent pas. Pas de birdsplaining, pour ainsi dire, chez ces oiseaux-là. De fait, et Darwin l'avait bien remarqué, chez les jardiniers, comme chez leurs cousins de paradis, les femelles sont vraiment difficiles. Elles ne se donnent pas aux premiers empileurs de brindilles ou danseurs venus. Elles comparent, elles pinaillent, elles choisissent. Grâce à ce processus, la femelle s'épargne de la fatigue, mais surtout des mauvais choix, c'est-à-dire de mauvais gènes, qui pourraient être transmis à sa descendance. Monsieur propose, mais madame dispose. En résumé, les constructions des oiseaux jardiniers sont des indicateurs de leur santé générale. Exactement comme la crinière épaisse noire d'un lion, qui est source de surchauffe pour le mâle, mais hyper sexy pour les lionnes. Ou comme la queue du paon, qui est très handicapante dans le sauvage. Mais c'est aussi et surtout une preuve de vigueur et de résilience pour cet oiseau. Voilà comment ces caractéristiques, ces équilibres subtils sont sélectionnés dans l'évolution, dans les mécaniques du vivant. Mais si les tonnelles des oiseaux jardiniers servent uniquement aux mâles de cette espèce, d'autres types de constructions sont vitales non seulement pour les bâtisseurs eux-mêmes, mais aussi pour tous leurs voisins. Certaines constructions sont de facto des oasis de fertilité, de vie, de diversité pour tout le milieu autour d'elles. Dans ces mécaniques de construction-là, 1 plus 1 fait toujours beaucoup plus que 2. Ces bâtisseurs sont surnommés espèces ingénieurs. Et ce sont même parfois des espèces clés de voûte. Clés de voûte, vous savez, comme cette pierre angulaire si spéciale d'un édifice, celle qui fait que toutes les autres tiennent ensemble. Si de telles espèces disparaissent, tous les voisins qui dépendent d'elles disparaissent à leur tour. Et il ne faut pas confondre ces deux concepts. De fait, les ingénieurs sont l'une des 4 catégories d'espèces clés de voûte. Parmi elles, il y a d'abord certains superprédateurs ou prédateurs apex, comme les requins-tigres par exemple, qui régulent la pression des herbivores sur les herbiers marins. Il y a aussi les herbivores, comme l'éléphant, qui dispersent les graines dans ses bouses et qui est donc essentiel aux plantes de la savane. Il y a les mutualistes, comme les abeilles, qui sont des ponts entre espèces. En pollinisant, elles permettent notamment la reproduction des plantes cultivées par les humains. Et puis la 4e catégorie, ce sont justement les espèces ingénieurs. Comme les castors, là où ils vivent, ils créent de nouvelles mosaïques de vie, ils attirent de nouvelles espèces et ils permettent même de lutter contre les inondations et les sécheresses. Et le castor, justement, c'est au programme du prochain épisode.